Ben d'abord, je voudrais remercier Anne-Marie et Sylvie de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour présenter ce dispositif. Après une pareille journée, venir, peut-être pas pour conclure, mais pour transposer, pour essayer de transposer.
Pour proposer, en tout cas.
Pour proposer, voilà. Mais je reprends le terme de transposition dont Roland, que Roland a utilisé tout à l'heure, en sachant que notre métier de transposeur, de formateur transposeur,
c'est téléporteur,
ouais. C'est un métier qui demande effectivement beaucoup de connaissances sur la didactique, sur la psychologie et sur l'histoire des pratiques. Et je pense que dans la formation de formateurs, la dimension historique mériterait d'être davantage valorisée. Voilà. Et puis, en guise d'introduction, si je peux me permettre une demande, Anne-Marie et Sylvie, ce serait que l'INRP nous fasse un commentaire savant et documenté sur les évaluations PIRLS. Parce que...
Mais tu n'étais pas là hier quand Liliane a commencé et on lui a dit qu'on voulait avoir... Mais effectivement, tu as raison, sur PIRLS, je crois que plus qu'encore que sur PISA, il va falloir faire quelque chose.
Alors, donc ce que je vais présenter, vous le savez peut-être, ce sera une espèce de résumé mis à jour d'un bouquin qui existe
chez Retz,
dans une collection modeste, mais qui a beaucoup d'ambition quand même, favoriser la réussite en lecture, les maclés, et la collection, c'est la collection Comment faire. Ce qu'on m'a demandé, c'est de présenter ce dispositif en répondant à trois questions. Quelles sont les hypothèses qui nous ont amenés à l'imaginer? Je dirais qui est-ce nous. Quelles mises en œuvre ont été utilisées, pratiquées sur le terrain, et quelle évaluation on peut en faire. Il faut quand même peut-être dire un certain nombre de choses sur ce que c'est avant de parler du pourquoi et du comment. Et on va le faire assez vite en disant que un module d'approfondissement des compétences en lecture-écriture, c'est une forme de décloisonnement original, en ce sens que pendant 3 semaines, durée limitée, en début d'année pour des CE1, ça peut être en fin d'année pour des grandes sections, ça peut être en milieu d'année pour des CE2, enfin bon, là, de ce point de vue, il faut élaborer des stratégies au niveau des cycles et des groupes scolaires. Donc un décloisonnement concentré dans le temps, 3 semaines ou 1 mois, pendant lesquelles toutes les matinées ou tous les après-midi, ou au moins la première partie de la matinée, la première partie de l'après-midi jusqu'à la récréation, on mobilise un maximum d'enseignants disponibles. Si on imagine, par exemple, un maclé CE1 en début d'année, dans un groupe scolaire où il y a 2 classes de CE1, on va donc mobiliser évidemment les 2 maîtres de CE1, le poste E du réseau d'aide. 2 classes de CE1, il est probable que le directeur soit déchargé au moins à mi-temps. Donc on peut peut-être envisager qu'il, avec l'accord de l'inspection, il participe au moins une partie de ce dispositif. Si le réseau d'aide est complet, que le poste G, le psychologue scolaire, se rappellent qu'ils ont été enseignants, à condition de ne pas prendre en charge des enfants qui seraient, par exemple, pris en charge par le poste G dans des regroupements. Ils peuvent aussi donner un coup de main. Si on est en ZEP, en REP, en RAR, en RRS, et qu'on a des moyens supplémentaires, des enseignants sur nombre, on va évidemment les mobiliser. Si on est dans un groupe scolaire où la maîtresse de petite section, l'après-midi, partage le peu d'élèves qu'elle a avec son autre collègue de petite section, puisqu'on a 2 CE1, il y a des chances qu'on ait 2 petites sections, eh bien, on a comme ça une équipe d'encadrement de luxe. Hein, vous voyez, 4-5 collègues pour encadrer 2 classes. On va pouvoir faire ainsi des tout petits groupes, 1h30 tous les jours pendant 3 semaines au moins, de 4-5-6 enfants en grande difficulté face à l'écrit, pour lesquels un diagnostic particulier aura permis de les regrouper autour d'une compétence levier sur laquelle on veut travailler de manière intense. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence levier ?
On va voir.
On va voir. Ceci n'étant possible qu'évidemment si on a à l'autre bout, pour des élèves beaucoup plus avancés, des élèves autonomes en lecture au CE1, ça existe en début d'année, des groupes qui, plus étoffés, 12, 15, éventuellement 20 enfants, pour lesquels on propose aussi des activités correspondant à leurs besoins. L'idée étant que si le diagnostic est bien fait, bien conçu, si les activités proposées dans ces groupes de besoins sont appropriées aux besoins de ces élèves, il est attendu une dynamique accélérée dans l'apprentissage de ces élèves les plus en difficulté, avec un double effet à la clé qui est visé. C'est d'une part améliorer évidemment le rendement des activités de lecture pour ces élèves. Ils vont mieux lire, mieux comprendre, devenir des lecteurs plus performants. Et par ailleurs, aussi faciliter le travail des collègues de CE1, puisque à l'issue du MACLÉ, on espère qu'ils auront une classe plus homogène qui leur permettra de faire des activités sur l'horaire normal, tous les enfants, y compris des élèves qui n'étaient pas encore bien débrouillés, pourront bénéficier pleinement de l'enseignement prodigué. Voilà.
Tu as dit grande section, CE1, CE2, c'est-à-dire pas de CP.
Alors, c'est-à-dire pas de CP.
Pour le moment, tu l'as pas fait.
J'en ai pas parlé. Il y a des expériences qui ont été réalisées au CP, certaines avec succès, d'autres moins. Donc, je réserve. Pour l'instant, on en parlera si on veut dans la partie discussion. Il y a aussi des expériences de MACLÉ en sixième
et en SES.
Et avec des collègues de travaillant en SECPA dans ces sixièmes,
hein,
d'accord, mais avec tous les élèves de sixième concernés aussi. Hein. J'en dirai quelques mots si vous le souhaitez, parce que c'est à la fois intéressant et extrêmement difficile à reproduire. Hein. Voilà, ça demande des conditions locales tout à fait particulières au niveau de l'équipe administrative, de l'équipe des conseils d'éducation, des professeurs de français et de l'ensemble des autres profs. Voilà. La déclinaison, suivant les niveaux, on est plutôt dans la prévention en grande section, on est plutôt dans la remédiation en CE2. J'ai parlé des groupes de besoins. J'aurais dû dire aussi que quand on a les moyens, un MACLÉ optimal se déroule en chaque demi-journée en deux temps. La deuxième partie de la demi-journée consacrée à des groupes de projets dans lesquels les enfants sont là regroupés non plus sur la base de leurs compétences, mais sur la base de leurs intérêts. Et dans ces groupes de projets, on va faire produire toutes sortes de choses qui vont amener les enfants à écrire et à lire beaucoup. Et on va s'arranger pour que les enfants les moins performants, les moins compétents, ne soient pas relégués dans des postes d'exécution. Du genre, si on fait une BD, c'est ceux qui agrafent. Hein, voilà.
Ou qui colorient.
Ou qui colorient, voilà. S'en dépasser. Alors, quelles sont les hypothèses qui sont à la base de ce concept un peu particulier qu'on pourra distinguer dans le débat des PPRE, hein, parce qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des différences avec l'idée des PPRE. Trois réflexions initiales sont à la base de ce concept et de l'expérimentation qui ont suivi. Nous étions sur la circonscription de Sarcelles. Je dis deux mots, hein, c'est 75% d'enfants issus des milieux très populaires, hein, d'après l'INSEE, catégorie socio-professionnelle défavorisée ou très défavorisée, avec à l'époque 20 points de moins en score moyen sur la circonscription par rapport au score national en français et en maths. Il y a une concordance des deux scores, aussi bien en CE2 qu'en 6e, avec une faiblesse plus grande encore en 6e qu'en CE2. Et donc, voilà. Nous avons, sur cette circonscription, fin du siècle dernier, 1998-99, oui, tout un travail d'un groupe d'enseignants. Ils sont une quarantaine de cycle 2, grande section CP, CE1, autour de l'idée de construire un outil d'évaluation continue pour accompagner l'enseignement, pour accompagner les apprentissages, pour permettre à l'enseignant d'être de surveiller au plus près les paramètres chauds, on dira comme ça, de l'apprentissage tout au long de la grande section, au début du CP, tout au long du CP et encore ensuite au CE1. Et on est bien obligé de se mettre d'accord pour construire cet outil sur un ensemble de compétences qui nous semblent devoir jalonner l'ensemble du cycle 2. Qu'est-ce qu'on apprend particulièrement, de manière particulièrement importante en grande section? La phonologie, des activités métaphonologiques, jusqu'où va-t-on en grande section? Est-ce qu'on va jusqu'au phonème consonantique ou est-ce qu'on s'arrête à la syllabe et à la rime? Le nom des lettres, est-ce que c'est quelque chose qui doit être réservé au CP ou est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde dès la grande section? Voilà le genre de questions qu'on se pose et bien d'autres évidemment, qui permettent aux collègues de mieux travailler en cycle. On prend vraiment l'hypothèse des cycles au sérieux. Donc en essayant de construire des continuités qui ne nous semblent pas suffisamment établies si on laisse les choses fonctionner un peu comme ça, spontanément. Et on a aussi donc des épreuves de début d'année, de fin d'année, de milieu d'année. On a des épreuves qui couvrent à peu près tous les besoins d'apprentissage, pense-t-on. Ces épreuves sont des épreuves plutôt papier-crayon qui visent à une évaluation diagnostique. Dans le cas où les enfants, ça c'est une idée importante, dans le cas où les enfants, dans l'observation continue, ne montrent pas la compétence qu'on cherche à avoir. C'est-à-dire que, au fond, on distingue bien là l'évaluation bilan et l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, pour nous, c'est plutôt réservé des enfants qui ont des problèmes,
qu'on a repéré
comme étant en difficulté. On peut faire des évaluations bilan. Les évaluations, le premier volet, évaluation CE1, on peut en discuter, mais enfin, sur le plan du contenu, le concept, c'est une évaluation bilan. Voilà. Donc nous, on est plutôt avec une évaluation diagnostique, c'est avec des choses très très analytiques, quoi. Je veux dire un peu que style numération sanguine complète.
Tu nous donnes un exemple
de choses qui, par exemple, ne se retrouvent pas dans les supports habituels. Évaluation bilan. Est-ce que un enfant saurait décoder une syllabe ou écrire une syllabe ou un pseudomot Voilà. Bon, dictée de pseudomot. Donc là, on teste la compétence en graphophonologie alphabétique. Est-ce que l'enfant sait mettre les relations en œuvre les relations graphème-phonème ou phonème-graphème? Est-ce qu'il analyse la syllabe? Ce qui n'est pas exactement la même compétence que le décodage. Et puis, on a, pour des enfants qui échoueraient à ça, un ensemble de sous-items, par exemple. Est-ce que les enfants ont compris le principe graphophonologique au niveau syllabique. On leur montre le mot coucou écrit, on leur dit dans coucou combien de syllabes, il faut qu'ils sachent faire ça, et on leur demande effectivement, t'as raison, dans coucou il y a bien deux syllabes, là c'est écrit coucou, est-ce que tu peux m'entourer les lettres qui font la première syllabe et puis les lettres qui font la deuxième syllabe? Et on observe des enfants qui, alors qu'ils ne savent pas décoder, à l'entrée au CP, repèrent bien que une série de trois lettres identiques, deux séries de trois lettres identiques peuvent représenter deux syllabes identiques. Donc bon, mais on a des enfants qui entourent la syllabe C, puis la syllabe O, en disant ça c'est la première syllabe, ça c'est la deuxième. Et quand on leur demande ce que font les autres lettres, ils disent rien. Il y a des lettres comme ça qui font rien. Ils ont appris ça. Bon. Voilà. Donc on a du bilan, du diagnostic. L'IEN de la circonscription dit c'est rudement intéressant votre truc. Là, moi j'aimerais bien avoir une idée un peu précise de ce que feraient tous les élèves de fin de CE1 sur la circonscription si on leur faisait passer toutes les épreuves diagnostiques. Alors on résiste au début en disant c'est pas fait pour ça. Et puis bon, finalement c'est quand même pas inintéressant à titre de recherche. C'est comme ça qu'il nous propose la chose. Donc on accepte et le résultat de ça, c'est extrêmement intéressant, ça nous permet de mieux voir les besoins d'apprentissage des enfants. On a effectivement quatre grandes catégories d'enfants, je vous en reparlerai, à la fin du cycle 2, avec des niveaux de performance, de compétences, mais aussi de capacité de progresser, il nous semble, dans l'instant, très différentes. Deuxième idée, pour 20 à 40% des élèves, il y a un risque de marginalisation. C'est une idée qui suit l'analyse qui vient d'être faite de ces résultats aux évaluations diagnostiques. Disons les choses à l'envers. On a 60 à 80% d'enfants pour lesquels on pense qu'ils ont les mécanismes d'auto-apprentissage de la lecture. Ça veut dire quoi, les mécanismes d'auto-apprentissage de lecture? Ça veut dire, voilà, des enfants, pratiquement, il suffit de les faire lire régulièrement des textes à leur portée sur le plan du lexique, sur le plan des connaissances encyclopédiques, pour qu'ils progressent dans tous les compartiments du jeu, appropriation de l'orthographe des mots, lecture par groupe de mots, construction du sens, résolution de problèmes de compréhension, et que, même si l'enseignant doit intervenir, il puisse le faire de manière modérée, sans avoir à faire un guidage très très rapproché du fonctionnement des élèves. Inversement, il y a des élèves qui n'en sont pas là et qui, même pour certains, commencent à manifester des conduites d'évitement de l'écrit parce que des élèves qui ont devant des textes même d'une demi-page beaucoup de mal à entrer dans une lecture suffisamment fluide pour tirer un bénéfice sémantique de cette lecture. Et les collègues ne savent pas bien, se sentent désarmés, hein. C'est pas, peut-être qu'ils sont insuffisamment formés, mais aussi peut-être qu'ils sont dans une situation qui est très difficile à gérer pour affronter cette hétérogénéité, la vraie, entre des enfants qui ont besoin d'être alimentés pour progresser et d'autres qui auraient besoin d'un certain temps pour achever les apprentissages de base du cycle 2. Troisième idée. Dans la littérature psychologique, on trouve comme ça des oppositions intéressantes pour les pédagogues, énumérons-les sans rentrer dans les détails, apprentissage déclaratif, apprentissage procéduraux.
Oui, bon. Hein,
apprentissage explicite, apprentissage implicite, oui. Apprentissage par règle, apprentissage par exemple. Oui. Hein, on pourrait sur chacune de ces oppositions montrer comment...
Par principe et par routine, on disait au XVIIIe siècle.
Oui, voilà. Il y a sans doute d'autres oppositions de concepts intéressantes pour comprendre les problématiques pédagogiques et pour mieux les aborder. Et il y a parmi les oppositions une opposition qui est peu souvent utilisée, apprentissage distribué, apprentissage massé. Mmh. De quoi s'agit-il ? C'est le problème de la gestion du temps, ressource rare par excellence pour l'enseignant, hein, toujours en train de faire rentrer au chausse-pied des tas de choses. En plus de ça, on lui diminue constamment ses horaires. C'est 26 heures plus une heure de PS égale 24 heures. Hein,
c'est la nouvelle arithmétique. Plus pour avoir moins.
la nouvelle arithmétique. Quand on dispose d'un certain capital de durée, d'une certaine durée d'enseignement, hein, sur une année complète, on peut la gérer de deux grandes manières. Soit on fractionne cette durée en un très grand nombre d'épisodes de courte durée. C'est typiquement l'apprentissage régulier du calcul mental ou de l'orthographe, où régulièrement on revoit des choses, on les entretient, on enrichit évidemment, mais très progressivement. Et il y a une familiarisation qui se fait, une automatisation qui se fait par la répétition, mais sur des courtes durées. Et puis il y a la possibilité de consommer cette durée de manière beaucoup plus massive, pratiquement à l'autre extrémité, en un seul épisode. Vous supposez, par exemple, la classe lecture type AFL. Oui, hein, c'était un modèle de cela.
Mais ça la classe Villette.
Ça, oui, ou le stage en immersion complète à l'étranger, où pendant une semaine et demie ou deux semaines, du matin au soir, vous n'êtes qu'avec des locuteurs natifs, à ne pouvoir parler que leur langue, au point que vous en rêvez la nuit, ce qui est très bon signe pour les apprentissages. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on traite le problème de la quand on envisage des stratégies de d'aide aux élèves en difficulté à l'école? Est-ce qu'on est plutôt dans du massé ou plutôt dans distribuer? Eh bien, la réponse vient immédiatement, le plus souvent, sans y réfléchir trop, spontanément, on s'oriente plutôt vers des stratégies qui se fondent sur l'idée qu'il faut répéter quelque chose régulièrement toutes les semaines. Vous voyez, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, attention, qu'on m'entende bien. Le réseau d'aide... généralement au CP et même encore au CE1, extrait l'enfant de la classe, souvent de plus en plus même le réseau d'aide le poste va intervenir dans la classe, mais il va le faire de manière distribuée. Hein, c'est-à-dire il va venir une heure et demie chaque semaine, où il va prendre les enfants une heure et demie chaque semaine pendant toute l'année. C'est pas qu'il le veuille toute l'année, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le législateur lui-même, quand il réfléchit à des processus d'aide, à des dispositifs, pardon, d'aide aux élèves en difficulté, bon, il va plutôt penser à du distribuer. La loi Fillon, 3 heures hebdomadaires de soutien en 6e et en 5e. Le ministre nous dit les 2 heures qu'on va libérer chaque semaine vont... Alors ça va poser un problème tout à fait considérable. Hein, on pourrait faire une journée complète là-dessus avec des dérives. Vous imaginez, bon, il y a les élèves qu'on va soutenir et puis ceux qu'on va pas soutenir. Donc ceux qu'on va pas soutenir, ils s'appelleront comment entre eux, hein. Moi, je suis normal. Hein, oui, bon. Et puis il va y avoir cette idée que comme il y a des lieux pour traiter la difficulté, il n'y a pas de rétroaction sur la pédagogie, c'est-à-dire que comme si la difficulté c'est quelque chose qui appartenait à l'enfant et qui n'était pas le résultat d'une mise en relation entre les enfants tels qu'ils sont et le pédagogue tel qu'il est. Hein. Bon. Voilà, donc le problème du distribué, c'est au fond la question qu'on s'est posée nous à Sarcelles, c'était ça. Est-ce que on ne regarde pas finalement les élèves en grande difficulté face à l'écrit comme s'ils étaient handicapés, atteints d'une déficience? Parce qu'on comprendrait, s'ils sont déficients, que l'on s'installe dans une pédagogie très particulière, un peu spécialisée, avec des moments réguliers. Si par contre on pense que leurs difficultés sont liées à des lacunes, à des compétences qui n'ont pas été construites, le fait de construire ces compétences devrait leur permettre de progresser. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'étaler ça sur la durée. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus massé? Voilà, ça c'est une réflexion, et on est purement, je dirais, dans quelque chose où il n'y a pas vraiment d'hypothèse du genre... si on fait ça, il va se passer ça, et alors, mais plutôt dans l'hypothèse au sens, je dirais, plus ordinaire et plus banal, qui est, et si on essayait ça, qu'est-ce que ça donnerait? Les collègues de l'école qui va expérimenter ça, étant volontaires, en se disant, on a essayé plein de choses, on peut encore essayer autre chose. Au point où on en est, bon, voilà. Si je suis là cet après-midi, c'est qu'il y a quand même des effets intéressants. Alors, mon rôle là va être d'essayer de rentrer un peu plus précisément dans le point 1, les besoins d'apprentissage très différents. Les besoins d'apprentissage très différents, puisque, au fond, c'est l'essentiel. Tant qu'on n'a pas un diagnostic précis, on va agir comme à l'aveugle. On pourra avoir de très beaux dispositifs, superbement conçu du point de vue organisationnel, du point de vue relationnel, du point de vue des projets, mais si ça ne correspond pas aux besoins des élèves, ce sera inefficace et à terme ça risque d'être contre-productif parce que ça risque de décevoir et décourager les bonnes volontés des enseignants. Donc le diagnostic c'est le point principal, et on n'évite pas on ne fait pas l'économie, au fond, des théories de l'apprentissage de lecture, des théories de la lecture et de la psychologie cognitive, en l'occurrence. Ce cadre, je vous le livre très rapidement, hein. C'est plus sous forme de rappel, pour se rafraîchir la mémoire, que pour rentrer dans le détail des choses. Deux grandes sortes de compétences, pour penser la lecture habile, celle qui favorise l'accès au contenu sémantique des textes, hein, tout ce qui est de l'ordre de la construction du sens des textes, tout ce qui relève de la profondeur sémantique des textes, tout ce qui relève de ce que veulent dire les textes, toutes ces expressions, prenez-les comme des synonymes. Et puis celle qui favorise l'accès au contenu linguistique des textes, à ce que dit le texte, à la surface linguistique du texte, plus précisément là, tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance de mots, et j'insiste sur les unités de sens qui ne sont pas forcément des mots, hein, on y reviendra. Petite situation d'introspection entre nous, hein, c'est pour faire de la formation, si vous comprenez ça. On va s'intéresser au traitement sémantique. Si vous comprenez ça, vous vous formez une représentation mentale. C'est une image, on pourrait décrire, mobile, hein, sur un plan donné. Alors qu'on ne vous dit pas que c'est un chat. Vous imaginez tous, j'imagine, un chat. On ne vous dit pas que le lait est chaud. Vous imaginez que le lait est chaud. Vous savez que les chats aiment le lait. Et vous imaginez peut-être pourquoi il est prudent, ce chat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez formé une représentation mentale qui est de nature sémantique. On pourrait l'analyser aussi avec les variations.
Impressionnant.
Voilà, ouais. On pourrait analyser les variations interindividuelles. Il y en a beaucoup parce que certains ont vu un petit chat noir, d'autres un gros chat blanc. Et certains ont vu ça dans une cuisine, d'autres dans un autre contexte, et peut-être d'autres ont vu ça de manière complètement abstraite, un peu comme dans un logiciel de conception de robots, enfin je sais pas, oui. Bon, toujours est-il que ce qui est là en mémoire, ce ne sont plus les mots. C'est la représentation mentale. À tel point que les psychologues cognitivistes, quand ils veulent vraiment entrer dans des débats sur de méthodologie, sur la mesure de la compréhension en lecture, s'arrangent pour que le sujet n'ait plus le texte sous les yeux, et même pour qu'il oublie la mémoire des mots qu'il a lus, pour ne conserver que la représentation mentale. Et donc là, au bout de 2 heures de tâches par... qui vont par exemple distraire le sujet du souvenir de sa lecture, on le questionne en lui demandant de reformuler ce qu'il a lu, si c'était un récit par exemple. Et là on va obtenir des phrases du type « Ah oui, c'était l'histoire d'un petit chat qui aimait le lait mais qui avait peur de se brûler, et donc voilà, bon, aucun des mots utilisés ne se trouvait dans le texte, en l'occurrence dans cet exemple. Je prends des exemples vraiment... fait pour, c'est pas toujours aussi simple et aussi net. Quels sont les facteurs qui nous aident à comprendre là, hein, parce que c'est ça, comprendre. Quels sont les facteurs qui, s'ils venaient à manquer, nuiraient à la compréhension chez tel ou tel lecteur et tout particulièrement chez des enfants. On pourrait montrer ça, hein, ouais. Voilà. Ça c'est l'opposé. Je vous laisse prendre connaissance du texte.
Ça fait partie de ces textes qu'on prend en drapeau plutôt qu'en outil.
Voilà. Ça c'est un texte qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire, on a du mal à se former une représentation sémantique. On n'a pas les mêmes capacités. On ne dispose pas ici des mêmes connaissances pour se former une représentation mentale. Et toute chose égale par ailleurs, vous voyez, c'est une situation assez similaire à celle qui surgit dans un CM1 quand l'enfant vient voir sa maîtresse en lui disant « Là, l'énoncé de problème, je comprends pas. » La maîtresse lui dit ben, « Relis. » Et il dit « Oui, mais ça fait déjà 3 fois que je relis. » Vous voyez, on pourrait... Je pense qu'en relisant, on arriverait peut-être à grignoter quelques éléments sémantiques supplémentaires. Mais enfin, franchement, le bon lecteur, ici, il sait que la meilleure des solutions pour lui, c'est de demander à quelqu'un de lui dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà.
Et si ça vaut la peine de le lire.
Voilà, si ça vaut la peine de le lire. Notez bien que les traitements linguistiques ne nous posent aucun problème. C'est les traitements sémantiques, c'est-à-dire que on pourrait très bien dire que tous les mots qui sont là, nous les reconnaissons sans difficulté. Et même, nous sommes capables de les regrouper en unités de sens potentiel, C'est-à-dire que si nous comprenions, c'est bien une structuration, groupe de mots par groupe de mots que nous ferions. Hein. Le concept d'un objet en général peut être immédiatement lié, en vue d'un jugement de connaissance, à la perception d'un objet qui en contient les prédicats empiriques, et ainsi un jugement d'expérience peut être produit. Mais bon, il est clair qu'il ne suffit pas de savoir faire ça pour comprendre la preuve, mais que si on ne le fait pas,
on comprend pas.
On comprend encore moins. Hein. Bon, d'accord. Bon,
voilà. Tournons.
Alors, quelles sont les compétences qui nous ont manqué là et que nous avions pour Mistigris, hein, au fond? Les psychologues nous répondent à ça assez simplement en trois grands champs de compétences. Les connaissances lexicales, et attention, le taux de saturation, il est beaucoup plus bas qu'on ne l'imagine. 5% de mots dont le sens est inconnu pour un lecteur habile, bac non, plus 5. Ce qui fait quand même 30 mots sur une double page d'un roman Gallimard. Hein.
Ça suffit.
Ça, vous attendez que les pages suivantes soient beaucoup plus transparentes, hein, du point de vue du lexique. 1% si les mots inconnus sont dans la phrase ou dans le paragraphe crucial. Mm-hmm. Ce qui peut arriver. Vous imaginez pour un enfant débutant qui, en plus de ça, n'a pas l'habitude de trouver des mots inconnus et de... Bon, voilà. Dans des textes et de franchir cet obstacle. Donc tout le problème du choix des types de textes, de la mesure de la lisibilité. Je signale que Jean Ménager est l'auteur d'un logiciel qui s'appelle Lizzie, mesure de la lisibilité des textes donnés à lire aux enfants, qui sera bientôt publié chez Nathan, et c'est un outil qui nous aidera à mieux cibler ce genre de problème de compréhension. Deuxièmement, les connaissances encyclopédiques. Deuxième grand champ de compétences. Il est clair que une bonne connaissance de l'univers de référence aide à se former les représentations mentales. Si on sait que les chats aiment le lait, si on sait ce que c'est qu'un chat...
Si on sait que
la fumée au-dessus d'un bol de lait, c'est que le lait est chaud, etc. Vous voyez, bon, voilà, c'est des connaissances qui aident à comprendre. Bon, on s'en doutait. Bon, mais là encore, il faut être au clair sur le fait que, par exemple, au cycle 2, si l'objectif c'est de construire les schèmes de base de la lecture, il vaut mieux éviter d'avoir des mots inconnus et des univers de référence peu familiers. Évidemment, si l'objectif c'est de construire des connaissances lexicales et de construire des connaissances sur le monde, alors c'est peut-être différent, et l'enseignant dans ce cas-là joue son rôle de médiateur. C'est bien ce que disent les programmes, hein. On a dit ce matin qu'il fallait distinguer, les programmes le disent. Troisièmement, des compétences stratégiques. Le bon lecteur n'est pas quelqu'un qui comprend tout d'emblée sans difficulté. C'est quelqu'un qui est susceptible de rencontrer des problèmes de lecture et de les identifier, de localiser dans l'espace du texte la phrase, le mot, le paragraphe sur lequel il a buté. Ou en fait, vous voyez, quand on comprend, on n'est pas conscient qu'on comprend, parce que tout ça c'est des automatismes. C'est quand on a un problème qu'on est conscient qu'on a un problème. Mais sinon, au fond, le rendement sémantique de notre lecture, nous en avons un contrôle par ceci que tout va bien. Mais quand quelquefois ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Nous localisons l'endroit où ça ne va pas, nous revenons à cet endroit, nous essayons d'identifier, de catégoriser la nature du problème. Est-ce que c'est une phrase syntaxiquement trop compliquée? Est-ce que c'est un référent ambigu d'un pronom? Est-ce que c'est une double négation suivie d'une forme passive? C'est compliqué à traiter. Est-ce que c'est, je sais pas moi, mon éditorialiste préféré qui me dit tout le contraire de ce qu'il a toujours pensé dans le premier paragraphe, quoique aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent le contraire de ce qu'ils ont toujours écrit. Mais bon, je me dis quand même c'est pas possible et
pareil.
Ça doit être de l'ironie, effectivement, me voilà soulagé par le second paragraphe. Mais voilà, donc des problèmes de différentes natures que nous sommes capables d'identifier et pour lesquels nous mobilisons des procédures de résolution de ces problèmes.
Tu parles du lecteur expert.
Du lecteur expert, bien sûr.
Qui se rend compte qu'il ne comprend pas.
Qui se rend compte qu'il ne comprend pas.
Le
problème, c'est que les enfants ne savent même pas qu'il y a des textes difficiles et des textes faciles. Peut-être que nous avons là, c'est une belle situation, à proposer des activités du genre. Je vous propose trois textes, Par exemple, avec des fins de CE1, début de CE2, ça devrait marcher. Voici trois textes. Ils sont peut-être pas tous aussi faciles à comprendre. Allez-y. Parler entre vous de votre lecture ensuite. Et on va essayer de voir si on est tous d'accord et pourquoi il y a problème. Bon, si on voulait définir les compétences stratégiques à travailler à l'école dans le cadre du socle commun, moi je les énumérerais comme ça, mais c'est un parti pris, ça se discute, j'ai pas le temps de trop argumenter. La base de tout, c'est l'adaptation de la posture de lecture au support et au genre de texte. Bon, je rentre pas dans le détail, mais on sait bien qu'on ne lit pas un documentaire comme on lit un poème, hein, ou une BD comme on lit un journal, etc. Et ça, il suffit pas d'exposer les enfants à la variation des supports, il faut aussi les amener à réfléchir, à théoriser, à verbaliser, à formuler comment ils s'y prennent, etc. Deuxièmement, le problème du mot inconnu. On met des mots inconnus, est-ce que les enfants sont mis en situation d'apprendre à résoudre ce problème ? Contexte antérieur, contexte postérieur, hypothèse plausible, analyse autour de la syntaxe aussi, est-ce que ce mot-là, c'est un adjectif ou un adverbe ? Dans ce cas, c'est peut-être pas si grave. Si c'est un nom ou un verbe, c'est peut-être plus...
Tu me le schtroumpferas deux fois ?
Voilà. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus l'impact sur la compréhension risque d'être plus important. Est-ce que j'ai une analyse morphologique sur le mot qui me permettrait de faire une hypothèse plausible, etc. Bon, souvent on dit on met des mots inconnus. Est-ce qu'on sait qu'on les met, hein? Est-ce qu'on sait lesquels on a mis? Est-ce qu'on sait quelle procédure on va élaborer avec les enfants pour franchir cet obstacle? La gestion des substituts, c'est assez connu depuis notamment les travaux de Martine Raymond. La connaissance des personnages et de leur psychologie et le repérage de leur prise de parole dans le dialogue et des intentions qu'ils manifestent par-delà leur prise de parole. Je dis en passant que une hypothèse intéressante concernant la difficulté de beaucoup d'enfants de milieux populaires, mais pas seulement, je pense à des garçons de milieux favorisés, d'entrer dans la littérature, c'est probablement parce que toute l'activité du lecteur qui profite pleinement de sa lecture littéraire, une grande partie de l'activité est centrée sur les intentions, les émotions des personnages, et s'il n'y a pas cette dimension-là, il reste pris dans la surface narrative. La représentation des lieux. On peut, vous voyez, même une histoire pourtant bien illustrée, comme une histoire sombre, très sombre, où on voit les lieux successifs, la compréhension résulte en fait de la formation d'un emboîtement, hein, d'une représentation synthétique où on a emboîté les lieux successifs. Elle n'est pas donnée, il faut que le lecteur la construise. Il y a des parcours il y a des lieux simultanés, il y a des lieux, pardon, différents dans lesquels se passent des histoires en parallèle. Bon, ça aussi, c'est des choses que il faut apprendre à construire en lisant. La gestion de la chronologie des événements, toutes les histoires ne se déroulent pas sur le modèle prototypique du récit enfantin. Il a fait ça et puis ça et puis ça et puis ça.
Les retours en arrière,
le fait divers où on commence par la fin, etc. Bon. Là-dedans, derrière tout ça, il y a des stratégies pédagogiques possibles. Je vous renvoie à un ouvrage qui va très bientôt paraître au printemps. Il est déjà dans les mains de l'éditeur. Il s'intitulera très probablement « Aider les élèves à progresser dans la compréhension des textes écrits ». Le mot « écrit » est important, c'est pas redondant. De Patrick Jolle. J2OLE, une grande part des pratiques pédagogiques, y compris mises en œuvre dans les maclés, viennent des idées qu'il a développées avec les collègues avec lesquels il a beaucoup travaillé, il continue à travailler. Hein. Il a aussi chez Retz et dans la même collection où il y a déjà lire des récits longs, cycle 3, 6e, 5e. Hein. Mm-hmm. Bon. Voilà, traitement sémantique. Exemple de traitement linguistique qui échoue, normalement. nous sommes en échec face à ce traitement, face à ce texte, parce que nous sommes non lecteurs dans ce texte-là.
C'est n'importe quoi.
Alors c'est voilà, c'est n'importe quoi. On voit l'helléniste qui essaye de faire fonctionner les psi, les rho, les tau, les bêta et les eta, les iota et les rho et les alpha. Bon, c'est un texte, c'est une dépêche d'agence française qui était doublement cryptée. Les A sont devenus des N, les B sont devenus des O, etc. Vous voyez, il y a une translation de quelques lettres. Et pour vous mettre vraiment, voilà, et pour vous mettre dans la même situation qu'un non-lecteur qui arrive au CP, en connaissant quelques petits trucs comme ça, on a passé tout ça en écriture, en alphabet grec. L'alphabet latin est devenu l'alphabet grec. Entre parenthèses, quand on voit ça, nous qui savons déjà ce que c'est que des mots,
on se connaît bien. Hein.
Nous qui savons un petit peu ce que c'est que la morphologie, la ponctuation, les majuscules, les minuscules, nous qui avons plein de connaissances sur la graphophonologie, sur la morphologie, nous pourrions trouver la clé de cryptage et nous serions à peu près capables de retrouver la résolution de cette énigme. Mais un enfant non lecteur, il est devant un texte ordinaire que nous lisons avec virtuosité, comme nous, enfin, dans une situation pire que nous, à l'instant. Hein. Mm-hmm. Il faut bien le voir. Et au fond, quand on dit ça, ça veut dire très clairement que la difficulté en lecture, c'est finalement quelque chose d'assez normal. Ce qui est surprenant,
c'est qu'il y en a tant qui réussissent. Moi, je ne cesse de m'émerveiller.
Il y en a tant qui réussissent aussi vite. Je veux dire, 80% d'enfants en moyenne qui réussissent à apprendre à lire à la fin du CP aussi bien et qui ont les mécanismes d'auto-apprentissage, c'est quand même assez extraordinaire. Normal. C'est bon. C'est sûr que c'est pas le CP tout seul. Hein. Il y a un couronnement. Gérard et Liane Chauveau ont dit des choses là-dessus tout ce qui précède. Hein. Bon, voilà. Il n'empêche, si je vous dis le texte, vous allez le comprendre, hein, le gouvernement a achevé la rédaction de son projet de loi sur, ouvrez les guillemets, les animaux dangereux et errants, fermez les guillemets, qui vise notamment à interdire l'importation, la vente et l'acquisition des chiens pitbull en France. Hein, mais c'est un texte qui reste encore d'une certaine actualité, même si les pitbulls, on ne sait plus loin. Quelles sont les connaissances qui nous manquent là et que nous devrions avoir pour pouvoir être lecteur dans cette écriture-là. Pas seulement la clé de cryptage, hein, parce que c'est Laurence Riben hein, qui dit que orthographier ou lire, c'est la même chose. Elle a parfaitement raison. Nous sommes capables de voir sur notre calepin visio-spatial, dirait le psychologue cognitiviste, apparaître les mots, si je vous les évoque oralement, immédiatement, chien, vente, acquisition, gouvernement. Ah oui, ça marche. France, importation, tout va bien. Si on voulait dire qu'on est lecteur dans cette écriture-là, il faudrait être capable de faire la même chose avec ces caractères-là. Vous voyez, donc vous imaginez le temps d'apprentissage que ça supposerait. Hein. Et très clairement, si un despote disait c'est dans cette écriture-là qu'on lit à partir de demain tous les textes pédagogiques et autres, on aurait raison de faire une émeute. Bon, cela dit, vous imaginez aussi ce que c'est l'angoisse d'un enfant face à ça, hein. Tu vas savoir lire, tu apprends à lire, tu sauras lire. Ah, est-ce que je vais y arriver? C'est comme l'angoisse face au solfège, hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui arrêtent. Hein.
Ah ben oui, la majorité. Hein. Là, bon. On n'a pas 20% de réussite.
Oui.
Je veux dire, lecteur et scripteur courant.
Oui, bien sûr.
On est très en dessous.
Alors, quelles sont les compétences mises en jeu dans ces traitements linguistiques? Je vais très vite. Je les énumère, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails. La connaissance des lettres de l'alphabet, donc ça fait partie des choses sur lesquelles, dans les trois écritures, en plus il y a une complexité particulière dans notre langue, où on commence très tôt par la cursive, ça pose des problèmes d'ailleurs, enfin je veux dire, il y a des enjeux pédagogiques derrière ça. Bon, bien évidemment les conversions graphème-phonème, et les compétences liées à ces conversions graphème-phonème, tout ce qui est de l'ordre de la métaphonologie, l'analyse de la syllabe en phonème. Entre parenthèses, l'obstacle là, c'est quoi? Il suffit pas d'enseigner les conversions graphème-phonème pour que les enfants les apprennent. Sinon, ça se saurait. S'ils ont quelquefois du mal à comprendre la question que leur pose leur maître ou leur maîtresse, c'est quoi les deux petits sons qu'on entend dans pou? Bon, imaginons Karine dans la classe qui dit, c'est peu et ou. Et puis Jonathan, c'est quoi les deux petits sons qu'on entend dans pou? Lui, pou, il en entend qu'un. Et c'est lui qui, du point de vue phonétique, a raison. Hein, c'est, ou est un son. Hein, faisons un tout petit peu de métaphonologie. Ou est un son. C'est une voyelle, voix, voyelle. Il peut être reproduit isolément. Mais ce qui correspond à la lettre P dans la syllabe pou n'est pas prononçable isolément. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle une consonne, parce que ça ne sonne qu'avec. Et comme c'est noyé dans la syllabe, le fait de l'abstraire, c'est pas si simple. C'est pas simplement un problème de discrimination auditive. Il y a derrière ça un pilotage de la discrimination auditive par du conceptuel. Et très clairement, tous les travaux en psychologie cognitive aujourd'hui montrent bien que c'est une première familiarisation avec l'écrit alphabétique qui aide à analyser l'oral. Bon. La connaissance des lettres, enfin, vous voyez, bon,
tout
très
ce qu'on a vu lundi. Ça, ouais.
Voilà. Là-dessus, bon, moi, j'ai envie de dire que, avant d'enseigner les graphèmes phonèmes, il faut s'assurer que les enfants peuvent s'y entendre en phonèmes. Hein, mm-hmm. Avant de pouvoir entendre les phonèmes, est-ce qu'ils peuvent s'y entendre en phonèmes? Et donc, là, il y a peut-être un certain nombre de choses à vérifier. Est-ce que les enfants comprennent que l'écriture note le langage? Est-ce qu'ils sont capables de segmenter les mots en syllabes, de manipuler les syllabes? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre que dans coucou, voilà. Est-ce qu'ils sont capables de faire des jugements de rimes, plus ou moins intentionnels, plus ou moins, je veux dire, conscients, explicites? Et est-ce qu'ils connaissent le nom des lettres de l'alphabet? Si tout ça n'est pas là, il y a des chances que les tâches d'analyse phonologique échouent. La reconnaissance de syllabes fréquentes, dès la fin du CP, des enfants qui sont bien partis dans l'apprentissage de lecture, où on voit que les mécanismes d'auto-apprentissage sont là parce qu'on génère des stratégies moins séquentielles, c'est la capacité d'unitiser des syllabes sous forme de ce que j'appelle moi je suis pas tout seul, mais des syllabogrammes de sorte que par exemple l'enfant reconnaît le mou de moulin, de amoureux, de moutarde directement parce que c'est le mou de mouton et de mounir dans la classe, hein, d'accord, voilà. Même s'il a commencé par faire la fusion des phonèmes quelques semaines avant. Et là, il y a des activités qu'on peut faire. Je veux dire, pour chacune de ces compétences, hein, je ne parle pas des activités parce que ça serait long. Vraiment trop long, mais c'est décrit en grande partie dans le bouquin. L'usage d'analogie orthographique, un élève qui est bien parti en apprentissage de lecture, c'est un élève qui, ayant déjà un peu de lexique orthographique, on le verra, avec des mots comme ranger, manger, changer, qu'il a écrit sans erreur un certain nombre de fois. Il est devant le mot danger, il reconnaît une analogie qui est d'assez grand empan là, il voit que la seule différence c'est la lettre D, il l'a fait sonner, et ça fait de danger, alors que des enfants qui n'en seraient pas là vont prendre les lettres de gauche à droite, D A, D A, D A, D A N, voilà. L'usage des analogies orthographiques montre que l'enfant est en train de construire ces mécanismes d'auto-apprentissage dont on parlait. Hein. Les connaissances sur la morphologie lexicale, si ces pseudomots, vous les lisez aisément, et même si vous êtes capable de construire une signification plausible, c'est parce que vous faites une analyse par morphème. Et on a pu montrer que des enfants, les travaux de Pascal Collet par exemple, dès la fin du CP, dès le début du CE1, sont sensibles à ça et sont tout à fait en mesure de décoder des mots avec ça. La mémoire orthographique, si vous lisez ça, vous le lisez à la finlandaise? C'est-à-dire, c'est parfaitement régulier, on va dire, mais bon, vous êtes obligé d'interpréter les formes sonores que vous construisez. Vous êtes vraiment dans le rébus et vous êtes quasiment obligé de vous entendre faire ces formes sonores. Donc, vous êtes privé de vos connaissances orthographiques, là, hein, d'accord. Là, vous êtes dans une lecture par voie orthographique, par voie directe. Il faudrait pas. Puisque chaque mot est un homophone non homographe, hétérographe, hein, d'accord. Et quand votre œil se pose sur SCIE, vous évoquez l'outil du menuisier, alors qu'il vaudrait mieux pas, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, un grand débutant, lui, il est insensible à cette différence. Pour lui, la première formule et la deuxième sont exactement la même. Hein.
Un lecteur expert, non.
Voilà, un lecteur expert, évidemment, non. Et à quoi sert l'orthographe ? Ça, c'est une chose absolument déterminante pour nous, formateurs. Ça ne sert pas principalement à écrire, ça sert principalement à lire. Hein, ces sauts, S-A-U-T, de faire des sauts S-A-U-T-S dans des sauts S-E-A-U-X, immédiatement, le bon lecteur voit les différences. Les connaissances sur la nature grammaticale des mots et la morphosyntaxe. Julie va au restaurant avec son ami. À l'oral, je ne sais pas qui est son ami. IE, je sais déjà un peu mieux. Si on me dit « et elle mange une pizza », à l'oral, je ne sais pas qui mange. À l'écrit, si je vois E2LES mange ENT, je sais mieux. L'usage des marques de ponctuation, j'insiste pas là-dessus. La lecture par groupe de mots, très très important. Hein, je montre cet exemple. Un enfant qui comprend le langage oral a des mécanismes naturels, non conscients, automatisés, de traitement du langage qui vont faire qu'il regroupe les mots en faisant une analyse syntaxique en temps réel sans savoir qu'il l'a fait. Et ça, c'est le grand mystère qu'elle essaie de comprendre Chomsky, par exemple. Hein. Bon, voilà. Mais quand il est devant l'écrit, qu'est-ce qu'il a tendance à faire ? À essayer de reconnaître les mots les uns après les autres, puisque c'est ce segment-là qui est mis en valeur, qui est particulièrement mis en relief avec la segmentation, avec les blancs entre les mots.
Oui. Il faut que t'avances plus.
Trois minutes. Voilà un des exemples de segmentation où on a mis en relief les groupes de mots. Des chercheurs belges ont pu montrer que chez des adultes lettrés, ça n'améliorait pas la compréhension parce qu'elle est déjà au top, mais ça améliorait la rapidité de lecture. Et pour des faibles lecteurs ou des lecteurs débutants, ça les aidait grandement à comprendre. Alors, nos quatre catégories. On a des bons et moyens lecteurs sont à peu près bien du côté des traitements sémantiques et du côté des traitements linguistiques, 60%. 20% sont des enfants qu'on va qualifier de moyens lecteurs parce que pour les traitements sémantiques, ils pourraient améliorer, creuser un peu. Pourquoi il est prudent, le mistigri, c'est pas le genre de question qui se pose. Alors que les bons lecteurs, oui. Donc on voit bien comment pour les bons lecteurs on peut automatiser ce qui est déjà là, pour les moyens lecteurs on peut creuser les traitements sémantiques. Très faibles lecteurs sont des élèves, on leur dit les textes, ils les comprennent assez bien. Par contre en lecture ils vont avoir des problèmes parce que ils ont une seule stratégie pratiquement héritée du travail qui a été fait tout au long du CP et encore continué au CE1, le traitement graphème à graphème. Le problème étant qu'en français, ça, c'est peut-être des enfants qui n'auraient aucune difficulté, par exemple en Italie ou en Finlande, mais en français, MEA, ça fait bien ma dans matin, malice dans marin, mais ça ne fait pas ma dans maison. MAI fait bien mai dans maison, mais pas dans maintenant. MAIN fait bien main dans maintenant, mais pas dans semaine. Et vous voyez, en fait, il faut avoir lu le mot pratiquement pour savoir comment il se découpe en syllabes. Et si on patouille trop là-dedans, évidemment, on est ennuyé. Et donc, vous voyez, c'est toutes les connaissances orthographiques qui vont aider à la mise en place, toute la morphologie qui va aider à la mise en place du décodage habile. Hein, bon, voilà. Alors voilà, des très faibles lecteurs sont des enfants, ils sont très près d'être moyens, voire bons lecteurs dans les traitements sémantiques, mais dans les traitements linguistiques, ils sont gênés à ce niveau-là. Et on voit bien comment, peut-être pour eux, très rapidement, on peut agir pour les aider à les mettre à niveau. Et c'est au départ, essentiellement pour eux, qu'est envisagé le maclé. Les non-lecteurs sont des enfants qui ont du mal dans les deux grands domaines, traitement linguistique, ils sont comme les très faibles lecteurs, ils n'ont pas rien appris au niveau du décodage, mais ils en sont essentiellement à l'usage des graphèmes et des phonèmes, à la fusion des phonèmes. Du point de vue des traitements sémantiques, voilà des enfants qui nous semblent en grande difficulté dans la compréhension de l'oral, et nous imaginons que si l'on veut à long terme, alors pour un maclé, on leur fera des choses qui vont les aider, mais sur le long terme, si on veut que cette population diminue en importance dans notre ZEP, dans la ZEP, on se dit qu'il faut faire un travail en amont au cycle 1, dès la petite et la moyenne section, sur le langage oral. Et on pense notamment à des outils d'évaluation, à des outils d'enseignement qui sont proposés, par exemple, par Philippe Boisseau dans ce bouquin
CRDP de Rouen.
Voilà. Bon, mais dans le Maclé, on va leur faire des choses quand même. Je vais parler du Maclé à Sarcelles. Tous les matins, une organisation décloisonnée pour tous les CE2. Ils sont 3 maîtres de CE2, 60 et quelques élèves. On mobilise les 3 enseignants de CE2, le maître E, en alternance le maître G, le psy, 2 maîtres mission REP, le directeur des chargés à certains moments, 2 assistants d'éducation, à l'époque ça existe. Et on répartit, comme je l'ai dit, les élèves en 2 sortes de groupes. Dans les groupes de besoin, 3 champs d'activité à chaque fois, quels que soient les groupes. Les bons lecteurs, les moyens lecteurs, les très faibles lecteurs. Et encore une fois, je parle de bons, de moyens, en ayant conscience que j'utilise des termes qui se référaient plus à des niveaux de lecture, alors qu'en fait, nous, on voit vraiment derrière ça des besoins. Mais à chaque fois, pour ces quatre catégories d'enfants, dans les groupes de besoin, 3 champs d'activité. Travail sur les problèmes de compréhension, c'est pas réservé aux bons lecteurs et aux moyens lecteurs. On travaille sur les problèmes de compréhension avec des textes à leur portée, avec les très faibles lecteurs évidemment, mais aussi avec les non-lecteurs. Apprentissage et entraînement sur les microstructures, les mots, les lettres, les syllabes, les morphèmes, l'orthographe, et les mésostructures, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, les groupes de mots, la ponctuation, la morphologie syntaxique. Production de textes courts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes sont produits. Tous les jours, régulièrement, les enfants écrivent. Ils écrivent des textes, oui, qu'ils ont fini en une séance ou deux maximum, pour ne pas être dans des tâches trop complexes, mais où l'objectif ici, c'est de travailler surtout sur la lecture, plutôt que vers des compétences en écriture, hein. Et pour ça, on utilise des situations génératives comme celle-ci, transformer la souris verte en une vache bleue à partir d'un lexique utilisé à partir d'outils fichiers images mots, textes référence, outils pour écrire.
On travaille sur le pattern d'un autre texte.
Voilà. C'est des outils oulipiens pour les profs de lettres qui sont là. Une petite halte réflexion très courte sur la différence qu'il faut faire, qui est décisive pour nous, entre groupe de niveau et groupe de besoin. Quel critère de regroupement pour les groupes de niveau? Ben, c'est un niveau global de bon, et on aura toujours des différences entre faibles, forts et moyens dans une même classe, même en prépa. Donc on a toujours des possibilités de faire des groupes de niveau, et on n'a pas besoin de faire un diagnostic pour ça. N'importe qui peut voir qu'il y a des différences. Groupe de besoin, ça suppose un diagnostic, ça suppose d'avoir identifié une compétence clé sur laquelle on travaille. La longévité, potentiellement, le groupe de niveau est permanent, hein, parce que en général, les forts restent forts et les faibles restent faibles, surtout si on fait ça, des groupes de niveau. Puis on le verra, alors que le groupe de besoin, a priori, il s'agit de monter la compétence levier. Donc aussitôt qu'elle est montée, eh bien les progrès se manifestant, le groupe de besoin peut disparaître et on peut passer à d'autres formes d'organisation. Quelle différenciation des tâches? Dans le groupe de niveau, on va jouer plutôt sur le degré de facilité, alors que dans le groupe de besoin, on va proposer des tâches selon les besoins diagnostiqués, évidemment. Quel rendement didactique? Dans les groupes de niveau, c'est un peu comme dans les filières, hein, le rendement est faible ou même négatif, ce qui peut apparaître bizarre, mais bon, ça s'explique. Tandis que dans le groupe de besoin, en général, on peut parier sur un effet positif ou très positif, puisqu'on a visé un progrès dans une compétence levier, c'est-à-dire où quand le progrès est acquis dans cette compétence, ça a un retentissement dans beaucoup d'autres domaines. On voit l'enfant progresser aussi dans d'autres domaines. Alors, quelles activités dans les groupes de projets? Voilà des productions, des exemples de productions diverses réalisées dans différents groupes de projets. J'ai dit qu'on pouvait le faire au CE1, j'ai dit qu'on pouvait le faire en grande section, on peut le faire en sixième. Bientôt, à Trappes, des écoles vont fonctionner en CM2 sur des écrits scientifiques en fin d'année, en faisant collaborer à CEMA Clé les collègues de collège prof de français, prof de maths, de SVT, d'histoire géo, et même des profs de PS qui vont venir aider sur les écrits scientifiques. Belle idée. Bon, OCP, point d'interrogation. Souvent, comme on vise un progrès à court terme, les collègues vont se dire, ah ben, au mois de mars, les gamins qui n'ont pas encore compris le principe alphabétique en CP, on va leur faire un maclé, ils vont comprendre. Erreur, évidemment. Erreur, évidemment, parce que ça ne se décide pas comme ça. Je veux dire, là, on est dans des processus développementaux. Le démarrage est un petit côté mystérieux. Il faut essayer de mieux comprendre comment ça se passe. Un maclé en tout début de CP ne me dérangerait pas. Vous voyez pourquoi ? Parce que on ne vise pas ce type de compétences immédiatement, mais de construire une certaine homogénéité dans les référents sur la langue écrite ou sur le langage oral. Bon. Voilà. Mais bon, cela dit, on ne va pas jeter la pierre à des collègues qui font des maclés CP qui s'en trouvent bien. Si on est en dehors d'une ZEP, on peut faire des maclés. Mais il faut toujours plus de maîtres que de classes. Exemple pour 2 CE1 dans une école où il y a 52 élèves répartis sur ces deux classes. On va faire 4 groupes d'enfants. 6 très faibles lecteurs encadrés par un maître de CE1. 8 faibles lecteurs encadrés par un autre maître de CE1. Alors là, je sens Gérard Toupiole qui va peut-être protester. 14 moyens lecteurs encadrés par le poste du réseau. On va dire c'est gâché. Bon, il faut que ce soit un accord sur la base du volontariat entre au sein de l'équipe, mais c'est bien que les maîtres de la classe prennent en charge les élèves les plus en difficulté, épaulés par le poste E pour le diagnostic et pour les activités, pour les interactions. Un maître supplémentaire, d'où vient-il, pour encadrer les 26 bons lecteurs de la petite section, de la décharge du directeur, d'un mix de tout ça, d'un collègue retraité qui vient donner un coup de main parce qu'il peut pas s'empêcher, il a des fourmis pédagogiques qui le démangent. Alors, quelle évaluation? On a fait une évaluation de ça, alors qui est discutée très précisément dans le bouquin. Je passe sur les chiffrages très très précis, mais disons que la surprise. Alors, on a un effet attendu.
Alors, qu'est-ce que vous avez évalué?
Alors, qu'est-ce qu'on a évalué? On a pris l'évaluation CE2 en français du début d'année, qui était passé par les enfants au mois de fin septembre, début octobre, suivant les trois classes. Il y avait un bon. Les enfants n'avaient pas été instruits de ce qu'ils avaient échoué ou réussi. D'accord ? Et au mois de janvier, on leur a fait repasser toutes ces épreuves. Et on a donc une comparaison avec aucun changement entre les items. Le thermomètre est le même. D'accord. Donc on mesure un réel progrès. On peut dire que le progrès réalisé, c'est pas seulement le maclé, parce que c'est fait d'autres choses, évidemment. Hein. Mais ce que nous montrent les statistiques là, les statisticiens, pour eux, ça leur apparaît évident. Qu'est-ce que vous avez fait de commun dans ces trois classes? Qu'est-ce que vous avez fait de commun dans ces trois classes? Parce qu'il y a des phénomènes de translation qui sont de toute évidence communs. Alors donc il y a les élèves très faibles lecteurs qui deviennent pour beaucoup moyens, voire pour certains bons lecteurs. Ça c'est c'était l'effet attendu, c'était l'effet attendu. Mais quelque chose qui nous a tous surpris, c'est les non lecteurs. Certains se sont découverts, hein. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui maintenant connaissent leur métier d'élève, savent ce qu'il faut faire pour lire, et grand plaisir des collègues qui ont beaucoup peiné pour construire ce maclé. La première impression, c'est ton truc, c'est vraiment ça prend la tête, hein. C'est exigeant en concertation. Il faut vraiment, faut pas vraiment avoir les deux pieds dans le même sabot, et c'est fatigant, hein. Je veux dire, c'est épuisant, mais au bout du compte, on est heureux parce que vraiment on voit des résultats d'enfants. Il y a des enfants, on avait fait, t'as des frissons quand t'entends ça, hein. On avait fait une croix dessus, faut le dire, hein. Et on les voit se révéler.
Et surtout,
lecteurs.
C'est que les enfants voient leur propre évaluation.
Et alors les gamins,
terme,
ils disent, ouais, on a. Je savais pas faire ça avant le maclé. Maintenant, je sais. Hein. Donc des enfants qui se sont sentis bouger. Bon, il n'y a pas de miracle encore une fois. Hein. Tout dépend du diagnostic et des activités pratiquées. Et je veux dire, on dit des choses sur ces activités. Regardez par exemple, si on prend les tubes bleus qui donnent la répartition à la même année et sur l'abscisse, et le pourcentage est sur l'ordonnée. donné. Autrement dit, par exemple, entre 90 et 100%, vous avez moins de 5% d'enfants en France aux items de l'évaluation CE2 nationale de 1999. Et vous pouvez remarquer que vous avez pratiquement plus de la moitié des enfants qui se trouvent au-delà de 70% dans les quatre tubes bleu foncé. Pour les tubes bleu clair représentent la répartition des enfants de Sarcelles de ces trois classes de CE2, d'accord? Alors vous avez la même chose pour le mois de en bas en janvier, le graphique qui se trouve en bas, c'est les enfants de France septembre.
Oui, c'est ça.
D'accord, attention, ils n'ont pas bougé. Ouais. On n'a pas d'évaluation sur les enfants de France en janvier. Bon, mais vous voyez à la fois la translation et l'homogénéisation qui résulte de ce dispositif, alors qu'on avait finalement un groupe important d'enfants en grande difficulté. On se retrouve avec une courbe de Gauss beaucoup plus classique. Résultat, ce qu'on peut dire de ça, c'est ma clé ou pas. Hein. Au fond, les enfants de ces trois CE2 de Sarcelles avaient 3 mois ou 4 mois de retard sur les enfants de France en moyenne. Et on a là maintenant un certain nombre d'enfants qui nous posent encore problème. Mais vous voyez, c'est plus la même tâche pour les maîtres de CE2 et de CM que de s'occuper d'eux spécifiquement par rapport à ce qui se passait au mois de septembre. Quelles sont les conditions de la réussite d'après nous? J'insiste, diagnostic pertinent, activité adaptée. Donc il faut un bon cadre théorique si on ne veut pas faire l'économie de ça. Et pas seulement sur la lecture habile, mais sur les obstacles que doivent franchir les enfants. Par exemple, l'obstacle du phonème, l'obstacle du décodage en français, l'obstacle de la lecture par groupe de mots. Il y a plein d'exercices.
Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la mise en œuvre. Les théories, ça ne nous fait pas de soucis, on est tous d'accord. Mais mais quoi?
Voilà. Et puis, le diagnostic, il ne suffit pas de savoir qu'est-ce qu'il faut évaluer, il faut aussi savoir quand on l'évalue et comment on l'évalue. Et là, le diable est dans les détails, hein. Absolument. Le diable est dans les détails. Je veux dire que bon, moi, j'exprime un peu mon désarroi quand je vois ça, quoi. Hein. Je le dis très clairement. Évaluation nationale CE1. Bon, l'enfant qui échoue au premier volet, on lui remet une dose de la même chose au deuxième volet. Il y a deux fois du bilan, quoi. Hein. Il n'y a pas une fois du bilan, une fois du diagnostic. Et il y a même des items sur lesquels on peut se demander vraiment qu'est-ce qu'on cherche, quoi. Hein. Voilà. Bon. L'importance des tout petits groupes, évidemment, on l'a deviné, hein, ça permet une action individualisée sur une courte durée, c'est important, une action intense et continue sur la courte durée, parce que ça permet d'avoir ce phénomène de l'enfant, voilà, qui se sent progresser, qui se dit ah oui, ça y est, j'y arrive, je savais pas. Au niveau de l'estime de soi, de l'image de soi, il y a aussi des changements. Regard des enfants sur eux-mêmes, regard des enfants sur les adultes, des adultes sur les enfants. Tout ça, ça fonctionne avec beaucoup l'effet Pygmalion aussi. Hein. Bon, le moment de l'action, choisir une période sensible, en grande section en fin d'année, c'est pas pour rien. En début de CE1, c'est peut-être pas pour rien non plus. Fin de CM2, avant l'entrée au collège. Mobilisation des enseignants, c'est clair que ça peut pas se faire sans eux. Des élèves, pas seulement des élèves concernés, puisqu'on va changer le fonctionnement des écoles. Les parents. C'est déterminant que les parents soient informés avant, pendant et après sur ce qui s'est fait, sur ce qu'on va faire, pourquoi. Prise en charge des élèves les plus faibles par leur maître si possible. Faut pas que ce soit un dogme. Faut que ce soit un choix. Éventuellement, on peut prolonger pendant 4, 5, 6 semaines, une fois par semaine des groupes de besoins pour stabiliser le progrès des élèves les plus en difficulté. Si on peut pas faire des groupes de besoins et des groupes de projets, est-ce que ça marche encore? Oui, mais moins bien. Dans les groupes de projets, il se passe des choses extrêmement intéressantes en relation avec ce qui s'est fait. Il y a le transfert, le réinvestissement, bien le sens. Ah, ça, si je savais mieux le faire. Donc, dans le groupe de besoins. Et puis, le soutien de l'équipe de circonscription ou de la direction du collège est indispensable. S'il y a des IEN ou des collègues qui appartiennent à des équipes qui, dans les IEN, pensent que ce serait bien de faire des maclés, c'est certainement une bonne idée. Mais attention à éviter la généralisation administrative. Un maclé, pour qu'il soit réussi, il faut que ça parte d'en bas.
Oui, et je peux t'en citer deux qui ont échoué parce qu'ils ont été exécutés.
Oui, bon, on dit des choses dans le bouquin qui devraient normalement. Voilà.
Ouais, c'est ça. Voilà.